Donc nous attaquons cette dernière table ronde. Il s'agit donc de faire un point sur la réglementation européenne. Comme l'ont rappelé les étudiants de l'ESC, c'est une directive européenne de 2002 qui a été transposée en droit français en 2006. Et les industriels ont eu 3 ans de répit parce qu'apparemment ça n'allait pas de soi, ce n'était pas aussi simple. Donc pour aborder cette table ronde, nous aurons Florence Taboulet à ma gauche, qui est pharmacienne, professeure de droit pharmaceutique et économie de la santé à la faculté des sciences pharmaceutiques de Toulouse. Monsieur Guillaume Cousin, que j'ai eu 10 fois au téléphone cet après-midi, qui a passé 5 heures à Orly et qui a vraiment tout fait pour être parmi nous, et je remercie vraiment énormément d'être là. Et en plus, qui a la double responsabilité ce soir de représenter Madame Favreau, qui est la responsable du plan Nutri-Vigilance et qui ne peut pas être là, donc elle lui a donné toutes les informations du bilan un an du Nutri-Vigilance, quels compléments sont remontés, quels problèmes, quels effets indésirables, plus la casquette répression et fraude, où est-ce qu'on en est avec la nouvelle réglementation. Et enfin, Jacques Van Der Mander, que nous avons déjà entendu, qu'il va falloir le tenir, Valérie, hein, parce qu'il tchatche, qui est donc aussi expert en réglementation et au syndicat national des fabricants de produits diététiques, et compléments alimentaires. Valérie, je te laisse la parole. Et juste à la fin de cette table ronde, Monsieur Buga, qui est donc médecin, donc on a entendu beaucoup de choses sur la formation des médecins, professeur de cancérologie, on a entendu beaucoup de choses sur la relation à la cancérologie, qui est très attaché à la question de l'alimentation et de la santé en général, ancien président du pôle cancer biosanté, qui écoute tout depuis le début, va nous ramasser ça, des grandes lignes de réflexion et d'action, en 5 minutes. Et après, vous pourrez encore leur poser toutes les questions que vous voulez.
Bien, alors effectivement, on va parler un petit peu de Synadiète. Moi, je voudrais savoir un petit peu plus, bon, d'abord, ce que ça représente. Est-ce que vous représentez tous les fabricants de compléments alimentaires? Et puis, donc le nombre d'adhérents, le profil des adhérents, rapidement, parce qu'il y a des sites internet et des plaquettes pour ça, mais histoire de voir un petit peu mieux ce qu'est Synadiète.
Oui, donc, mon nom est Jacques Van Der Mander, je représente donc Synadiète en tant qu'administrateur de ce syndicat. Donc ce syndicat est un des 2 syndicats français dans le domaine du complément alimentaire, ou du moins assez spécialisé dans le domaine du complément alimentaire. Et donc Synadiète représente aujourd'hui à peu près 160 adhérents, ce qui est beaucoup dans ce secteur, et représente à peu près 75% des fabricants de compléments alimentaires en France. Donc il est tout à fait significatif comme syndicat. L'objectif du syndicat, en 2 mots, c'est, comme tout syndicat professionnel, de défendre la profession. Mais je dirais pas simplement de défendre les intérêts de la profession, parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé, depuis qu'on a commencé, j'ai l'impression que la profession de fabricant de compléments alimentaires est un peu clouée au pilori. Et je pense, et en tout cas je suis fier dans ce sens-là et heureux d'être là ce soir, parce que il faut que les fabricants de compléments alimentaires puissent exprimer aussi leur point de vue. C'est des industriels qui sont pour l'immense majorité des gens tout à fait sérieux, conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de la santé, ne faisant pas n'importe quoi. À titre d'exemple, les adhérents de Synadiète ont tous signé une charte de qualité, c'est-à-dire un engagement de fabriquer les produits, les compléments alimentaires, dans des normes de qualité, depuis la conception jusqu'au contrôle du produit fini. Donc la notion de qualité est quelque chose qui est très important pour nos adhérents.
Je dois préciser que vous êtes pharmacien de profession, donc bon, a priori, on pense que vous êtes sérieux.
Ça, être pharmacien est sérieux, je vous laisserai cette responsabilité. Par contre, ce qui est certain, c'est que, et c'est pour ça que c'est très bien que vous ayez invité aussi monsieur Cousin, puisqu'on travaille souvent ensemble, déjà dans le cadre du syndicat. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les étudiants ont dit que c'était un domaine où la réglementation était permissive jusqu'en 2002.
C'était la question suivante. Qu'est-ce qui se passait avant 2002?
Je sentais qu'elle allait venir à la question. En fait, vous avez raison et tort. D'abord, votre présentation était très, très bien faite. C'est dommage qu'elle était un peu courte, mais c'est très intéressant. Mais vous avez raison et tort. Si on fait l'historique, en fait, avant 2002, il n'y avait pas de réglementation spécifique pour les compléments alimentaires. Donc c'était un nouveau marché. La seule définition qui était donnée avant 2002 des compléments alimentaires, c'était l'occasion de la crise de la vache folle pour la gélatine utilisée dans les compléments alimentaires. C'est la première fois que le mot complément alimentaire est apparu dans la réglementation. Donc c'est pas une réglementation permissive, c'est une réglementation qui n'existait pas. Par contre, et Dieu merci, parce que à nouveau, je le répète, nous industriels, notre préoccupation c'est quand même la qualité et le sérieux des produits. Il y avait des règles qui étaient mises en œuvre, donc on a travaillé avec la DGCRF à ce niveau-là. La DGCRF, par défaut de texte, appliquait des principes. Déjà pour les allégations, on faisait pas n'importe quoi pour les allégations avant 2002. D'abord, en 2002, il n'y a pas eu de réglementation pour les allégations. Les allégations, c'est venu en 2006. Et même encore aujourd'hui, où cette réglementation allégation se met en place, les industriels ont une responsabilité vis-à-vis des allégations qu'ils font. Ils ne font pas n'importe quoi, contrairement à ce que j'ai pu un peu entendre. Ils ont une obligation, M. Cousin pourra le confirmer, mais les industriels ont l'obligation de pouvoir justifier leurs allégations. Donc aujourd'hui, on a mis en place un système européen d'avis a priori, c'est-à-dire qu'on examine une allégation avant de pouvoir la faire, mais les industriels ont toujours l'obligation de faire la preuve de leurs allégations. Et lorsqu'il c'était évident et les preuves amenées par l'industriel étaient suffisantes, ça n'allait pas plus loin dans le cadre d'un contrôle du GCRF. Et si l'industriel, si par contre les preuves étaient insuffisantes ou s'il y avait un doute scientifique, à ce moment-là, il y a une instance française qui était là pour donner un avis, qui s'appelait l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui donnait un avis sur une allégation plus compliquée.
Enfin, on va pas passer trop de temps sur ce qui s'est passé avant 2002. On va vraiment parler du présent. Moi, j'ai l'impression quand même que la réglementation va favoriser, alors peut-être que je me trompe, les gros groupes, les industries pharmaceutiques, et ça rejoint une deuxième question, parce que je fais des questions tiroirs, c'est-à-dire le profil des adhérents et le profil des fabricants. Ce sont visiblement pas les industriels de l'agroalimentaire, ce sont principalement des firmes pharmaceutiques qui sont arrivées sur le marché récemment, et puis à côté de ça, des boîtes peut-être plus artisanales, plus ancestrales, qui sont peut-être en train de disparaître. Il va y avoir une concentration du marché, non, a priori?
Alors, il n'y a pas une question, effectivement.
Oui, il n'y a pas de question.
Au niveau des adhérents, le profil...
Mais comme vous êtes très long à répondre, je suis obligée de...
Au niveau des adhérents, ben, je pense qu'on représente à peu près la répartition actuelle des différentes origines des industriels du complément alimentaire. Donc, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a la pharmacie, et puis il y a des indépendants qui ont créé des entreprises. Donc, ça, je pense que c'est à peu près représentatif de la situation du marché aujourd'hui.
Mais dans quelle proportion ?
Je ne saurais pas vous dire exactement. Enfin, en tout cas, par rapport aux chiffres clés du marché des compléments alimentaires en France, de mémoire, dans le top 5 des chiffres d'affaires, il y a 3 laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, c'est ce que...
Oui. Mais c'est très clair. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est une très bonne chose, pour deux choses, d'ailleurs. C'est une très bonne chose parce qu'un industriel qui fait des médicaments, ben, le jour où il fait des compléments alimentaires, il applique des normes de sécurité qui sont du même niveau que celles du médicament. Donc, ça devrait rassurer par rapport à certains commentaires qu'on a entendus tout à l'heure où on avait... quand même un peu l'impression que l'industriel du complément alimentaire, par moment, cherchait à empoisonner ses clients, ce qui n'est pas le cas. L'autre intérêt, je pense, que l'industrie pharmaceutique soit présente dans ce secteur du complément alimentaire, c'est qu'ils ont effectivement un savoir-faire dans le domaine du développement de nouveaux produits.
Alors justement, oui. Bon, enfin, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, enfin, le côté très positif... On verra peut-être avec nos autres intervenants. On peut regretter que le marché se concentre aussi, il me semble.
Mais je suis pas certain qu'il se concentre. Personnellement, en dehors de mon activité à Synadiet, je suis consultant et j'ai tous les jours, en 2 mois, il y a 2 nouveaux clients qui sont des jeunes qui créent une entreprise pour développer un complément alimentaire. Et ils m'ont missionné pour développer un nouveau complément alimentaire. Donc il y a des gens qui croient encore beaucoup au complément alimentaire et qui veulent faire de l'innovation dans ce domaine. Et il y a encore de la place pour l'innovation, même pour des toutes petites sociétés où il y a une personne et des aides d'État, etc.
Alors sur l'innovation, parce que tout à l'heure on opposait nature et chimie, d'ailleurs de manière assez fausse, puisque la nature est chimique. J'aimerais voir un petit peu avec vous quelles sont... Enfin, c'est la minute de pub, sans que personne vous saute dessus. L'innovation, quelles sont les tendances ? Est-ce que c'est plus de biotechnologie pour plus de naturel? Est-ce que c'est des nouveaux produits comme l'igname qu'on va chercher au bout du monde? C'est quoi?
Là, je vais répondre à mon nom propre, pas au niveau du syndicat, parce qu'on n'a pas une position arrêtée là-dessus au niveau du syndicat, donc je vais répondre en tant que consultant. Pour moi, l'innovation dans le domaine du complément alimentaire, elle est à différents niveaux. Elle est d'une part pour une partie de la population et de la clientèle sur l'intérêt des produits bio, donc la garantie d'absence de produits chimiques, etc., ou du moins de pesticides ou de choses comme ça, parce qu'à nouveau, la notion de chimique, c'est un peu discutable. Mais donc, il y a cette partie du marché qui est croissante aujourd'hui, c'est incontestable. En termes plus scientifiques, plus techniques, il y a toute une série d'études, de travaux qui sont faits sur des formes de biotechnologie, mais là, il y a toujours le frein amené par la réglementation et le côté sécurité de la réglementation qui doit être là. On discute de temps en temps avec Monsieur Cousin de nanotechnologie, puisque certains produits revendiquent être des nanotechnologies. Aujourd'hui, les nanotechnologies font un petit peu peur parce que c'est nouveau et donc on ne sait pas très bien ce que ça peut faire. Donc, ça, c'est des gens travaillent dans l'innovation là-dessus. Mais je dirais que dans la majorité de l'innovation aujourd'hui, ça va être de partir d'ingrédients qui sont connus, qui sont sûrs, pas des doses qui sont là pour tuer ou pour donner le cancer, mais à des doses qui sont raisonnables et encadrées par la réglementation, et de démontrer que des combinaisons d'ingrédients avec des formes galéniques, c'est-à-dire des formes d'apport particulières, vont permettre d'obtenir un effet significatif. Et c'est ça l'innovation, je pense, dans le contexte réglementaire aujourd'hui. Mais c'est ma conviction personnelle.
D'accord. Une dernière question, parce que le temps passe. On dit qu'il y a à peu près 4000 allégations sur le marché européen, que l'EFSA en aurait retoqué une très grande majorité, jusque-là, je crois que c'est de l'ordre de 80%. Voilà. J'ai deux questions. Ceux qui ne pourront pas prouver l'allégation, ça a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont pas forcément. Est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce qu'ils vont continuer en basculant du côté aliment ?
Non. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'allégations qui, pour l'instant, ont été refusées par le FSA. Donc, c'est
donc
pas.
Donc, la haute autorité européenne.
Oui, mais ça n'a pas de valeur réglementaire aujourd'hui. Ce n'est que des avis. Mmh. Qui seront transposés d'ici la fin de l'année prochaine, probablement en droit européen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de décision de réglementaire d'interdire une allégation, il n'y a que des avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la majorité des avis ont été donnés sur des vitamines minéraux, avec des choses qui sont tout à fait raisonnables, d'autres que personnellement, je trouve tout à fait contestables.
De la part de l'EFSA ou du fabricant ?
De l'EFSA. À titre d'exemple, les allégations positives acceptées par le FSA sont acceptées pour 15% des AJR, c'est-à-dire 6 fois moins que la dose moyenne qu'on estime raisonnable de prendre par jour, ce que je trouve personnellement beaucoup trop faible. Et donc, la troisième chose, c'est que donc il va y avoir une liste positive d'allégations que tout le monde pourra utiliser. Donc, l'idée que vous évoquiez tout à l'heure, que beaucoup de petits industriels du complément alimentaire vont disparaître, c'est pas vrai. Il y a des allégations qui sont acceptées sur la vitamine C, sur le zinc. Ils peuvent faire des compléments alimentaires avec la vitamine C sur le zinc et ils pourront communiquer sur les allégations qui ont été acceptées sur ces ingrédients.
D'accord. Merci.
Et sur les plantes, comme disait...
Oui, parce que ça a l'air d'être un peu
Les plantes, fou. Ça a l'air un peu particulier comme statut
ou... Eh ben, les plantes, il y a la grosse question de prendre en compte ou pas. D'abord, à mon avis, il y a le point de faire la limite entre ce qui est vraiment une plante médicinale au sens strict du terme, c'est-à-dire que ses effets pharmacologiques, ses potentiels dangers en leur réserve aux médicaments. Et puis après, il y a toutes les autres plantes qui peuvent effectivement avoir soit le statut de médicament, soit le statut de complément alimentaire. Pour ces plantes-là, donc, la grande question est de savoir si on prend en compte la tradition ou pas. Je vais être très bref, mais je voudrais quand même dire, parce que c'est un point très important pour nous au syndicat, quand même aujourd'hui, les médicaments à base de plantes sont, les indications thérapeutiques des médicaments à base de plantes sont basées uniquement sur la tradition. Un médicament à base de plantes n'a pas d'étude clinique. Donc, par conséquent, il y a une grande discussion aujourd'hui avec le FSA, entre le FSA et les syndicats, dont Synadiète et le syndicat européen dont on fait partie, qui est le HPM, il y a une grande discussion avec le FSA pour demander à le FSA de prendre en compte la tradition sur l'usage des plantes, parce qu'on ne comprendrait pas très bien que le médicament puisse bénéficier de cette tradition et pas le complément alimentaire.
D'accord, je vous remercie. Donc nous allons continuer avec Guillaume Cousin, et qui m'a demandé s'il pouvait réagir à la première table ronde qu'il a entendue, parce que certaines choses l'ont un peu dérangé. Donc on va commencer par une... lecture critique par Guillaume Cousin de ce qui...
Oui, bonjour à tous. Donc, déjà, je vais me présenter. Effectivement, je m'appelle Guillaume Cousin, je suis ingénieur agro et je travaille depuis 8 ans à la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. qui est l'administration chargée de la protection du consommateur, on va faire simple. Hein. Donc il y a une partie de contrôle au niveau de chaque département, contrôle au niveau de la distribution et de la fabrication. Et moi, je travaille plutôt en administration centrale, donc l'administration centrale qui a pour rôle d'une part d'orienter les contrôles, mais en amont d'élaborer la réglementation. Et régulièrement, effectivement, nous allons à Bruxelles pour négocier les textes communautaires et défendre la position française. Donc je travaille dans le secteur nutrition qui représente la France à Bruxelles sur les sujets allégations nutritionnelles, compléments alimentaires, étiquetage nutritionnel, addition de substances aux denrées alimentaires. Donc c'est par exemple dans notre secteur qu'on a eu la chance de traiter des affaires comme Red Bull, voilà, ou Outox aussi, je suppose, vous avez entendu parler de la boisson qui réduit l'alcoolémie, voilà, donc des dossiers.
C'est la boisson qui soi-disant dessoule.
Voilà, voilà. On a toujours des dossiers assez marrants. Mais, et on a des dossiers qui sont passionnants, comme effectivement ceux des compléments alimentaires. Alors je voulais réagir, oui, pas tellement par rapport à ce qui était dit par les intervenants, mais surtout aussi par rapport à ce qui était dit dans la salle.
D'accord. Hein.
Moi, je veux vraiment que les gens, déjà d'une part, fassent bien la distinction entre la sécurité des compléments alimentaires et leur efficacité, mm-hmm, hein, qui sont vraiment deux choses différentes. Dans le médicament, on a une autorisation qui est basé sur à la fois l'efficacité et la sécurité avec un rapport bénéfice-risque. Là, on a deux réglementations qui sont vraiment séparées pour gérer la sécurité et l'efficacité. L'efficacité, c'est effectivement ce nouveau règlement qui a été mis en place depuis 2006, on en a déjà un peu parlé, qui prévoit de mettre en place des systèmes d'autorisation préalable, c'est-à-dire des autorisations centralisées à Bruxelles après évaluation de l'autorité. Donc un système très très rigoureux qui est en train de se mettre en place. Et puis pour la sécurité, c'était cette directive de 2002 qui a été transposée en France par un décret de 2006. Et j'insiste vraiment sur la nécessité, mmh, de distinguer vraiment ces deux aspects et de ne pas mélanger les choses. Mmh. Sur le plan de la sécurité, ce qui est important, et je voudrais aussi réagir par rapport à ce qui a été dit, et je voudrais surtout rassurer les gens qui nous écoutent, et vraiment ne pas avoir un discours anxiogène. Il y a quand même des règles qui sont mises en place en France. On n'a pas encore véritablement de réglementation harmonisée. La directive donne une définition et une liste positive de vitamines et de minéraux, mais ça s'arrête là. Et donc nous, en France, on a choisi d'aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à la transposer, cette directive, en prévoyant déjà d'une part des teneurs maximales en vitamines et minéraux. On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc à l'heure actuelle, les compléments alimentaires qui sont commercialisés en France sont censés respecter ces teneurs maximales en vitamines et minéraux, et ces teneurs sont établies bien sûr sur la sécurité. Donc en principe, il n'y a pas de risque à consommer ces produits, à moins bien évidemment de multiplier les produits, hein. Si vous prenez 10 produits différents, ou si vous ne respectez pas la dose, si vous accumulez les mêmes vitamines, effectivement là vous ne serez plus dans les conditions d'utilisation du produit et là vous aurez un risque. Mais à l'heure actuelle, la réglementation vise quand même à protéger les consommateurs en prévoyant des teneurs maximales. On cherche également à établir des listes positives de plantes et d'autres substances que l'on peut utiliser dans les compléments alimentaires. Alors ça, c'est un travail de très très longue haleine. Moi, je travaille dans le secteur depuis 8 ans et déjà il y a 8 ans, on essayait d'établir ces listes de plantes. On a d'énormes difficultés.
Qui portent sur quoi, ces difficultés ?
Alors, sur, y a tout d'abord des enjeux sanitaires qui sont importants. La question des plantes, par exemple, est éminemment complexe. Et puis, il y a également des enjeux économiques. Essayer de vous expliquer un peu la situation. Donc, essayer de vous mettre à ma place. Vous êtes gestionnaire du risque. Vous devez établir la réglementation sur les plantes. Quelles plantes peut-on utiliser dans les compléments alimentaires ? Donc, première étape, vous demandez à votre agence scientifique. Donc, à l'époque, c'était l'AFSA, qui maintenant s'appelle l'ANSES. Et donc aux experts scientifiques de l'ANSES d'établir une liste de plantes que l'on peut utiliser dans les compléments alimentaires. Quelles plantes sont sûres, quelles plantes sont dangereuses? Là, l'ANSES répond en disant que, selon elle, une liste n'est pas suffisante. Il faut une autorisation produit par produit, un peu sur le modèle du médicament. D'un autre côté, la France se fait attaquer devant la Cour de justice par la Commission européenne parce que justement, elle met en place des systèmes d'autorisation préalable et qu'elle n'applique pas le principe de reconnaissance mutuelle, ce qu'on appelle la libre circulation des marchandises. Autrement dit, un produit qui est autorisé dans un autre État membre doit pouvoir être commercialisé en France. Sachez qu'en Belgique, par exemple, ils ont une réglementation depuis 1997 sur les plantes que l'on peut utiliser dans les compléments alimentaires. Il y a une liste de plus de 400 plantes. Donc ce qui veut dire que les Belges qui ne sont pas sots, qui font les choses quand même de manière relativement sensée pour leurs consommateurs, ont autorisé un certain nombre de plantes et la France est censée accepter les produits qui viennent de Belgique, par exemple. Et il y a eu la même chose en Italie un peu plus récemment. Donc la France, à l'époque, a failli payer 60 millions d'euros d'amende, hein, pour vous donner un peu l'idée des dégâts. Donc d'un côté, on avait notre agence d'expertise qui nous disait « Non, on ne peut pas établir de liste de plantes, il faut une autorisation préalable, une évaluation préalable. » Et de l'autre côté, l'Union européenne qui disait « Non, ce n'est pas possible de mettre en place, dans le système actuel, des évaluations préalables pour les produits qui viennent de l'intérieur de l'Union européenne. » Donc on a mis en place un système d'autorisation proportionné, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros tous les produits, tous les compléments alimentaires qui sont commercialisés en France sont déclarés à la direction générale à Paris, donc dans mon bureau. Depuis 2006, on a reçu plus de 30 000 demandes. Donc c'est d'une part une information pour les produits qui sont, par exemple, à base de vitamines et minéraux, qui sont conformes à la réglementation française. Et pour les produits qui ne sont pas conformes à la réglementation française, c'est-à-dire qui contiennent, par exemple, des plantes ou d'autres substances, c'est une autorisation préalable, mais basée uniquement sur la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que l'opérateur doit apporter la preuve que son produit est légalement commercialisé dans un autre État membre de l'Union européenne. Et sur cette base-là, nous allons établir des listes de plantes, sur la base des autorisations qui sont rendues au fur et à mesure aux opérateurs.
Donc vous avez passé des tas de questions que je voulais vous poser. J'aurais aimé, il y a cette réglementation européenne, et il y a aussi en France ce qui est spécifique, c'est ce qu'on appelle le plan Nutri-Vigilance. Donc ça c'est unique en Europe, ce sont les médecins aujourd'hui qui doivent déclarer à l'ancienne AFSA, l'ANSES, si il y a des problèmes avec des compléments alimentaires, ils doivent essayer de vérifier quels sont les effets indésirables. Au bout d'un an, qu'est-ce qui est remonté de ce plan, en fait? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont remontées de médecins, de pharmaciens, de médecins nutritionnistes? Sur quoi ça portait? Sur certains produits? Sur des mélanges de produits? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion?
Alors, tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que, effectivement, la vigilance est quelque chose de très, très innovant dans ce domaine-là, puisqu'on on a ça, par exemple, dans le domaine du médicament, c'est la pharmacovigilance, ou dans le domaine du cosmétique, c'est la cosmétovigilance. Donc là, on a quelque chose de très, très innovant qui a été mis en place l'année dernière. Il faut bien comprendre que c'est, en gros, pour faire simple, la dernière pierre de l'édifice, c'est-à-dire qu'en amont, vous avez la réglementation qu'on essaye de mettre en place. Derrière, vous avez les contrôles qui sont faits par les agents de la CCRF au niveau de la distribution et de la fabrication. Et puis, in fine, on surveille également l'état de santé du consommateur pour s'assurer que rien n'a pu passer à travers ces différents filtres. Et effectivement, l'idée, c'est que si jamais le médecin constate qu'un de ses patients à une pathologie et que le patient a pu consommer un produit, alors pour l'instant ça concernait uniquement les compléments alimentaires, mais là c'est étendu à d'autres produits, les denrées notamment qui sont additionnées de substances chimiques ou les produits diététiques ou les aliments nouveaux. S'il constate que la personne a consommé un de ces produits, il doit le déclarer effectivement à l'ANSES, qui, elle, va chercher à d'une part évaluer l'imputabilité, c'est-à-dire voir si vraiment l'effet indésirable est lié à la consommation du produit, et ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et dans un deuxième temps, de rechercher la cause potentielle. Alors depuis un an, on a eu, l'ANSES a reçu un peu plus d'une centaine de remontées d'effets indésirables, soit par des professionnels de santé, à savoir médecins, pharmaciens, soit également par les centres antipoison, parce que c'est vrai que les médecins ont encore cette tendance à contacter les centres antipoison. Mais de toute façon, le système est construit de manière à faire converger l'information au sein de l'ANSES. Je dirais le cas le plus symptomatique que l'on a rencontré, c'est effectivement des effets indésirables de type hépatique remontés chez des patients qui avaient consommé la même gamme de produits. Donc là, forcément, on se pose tout de suite la question d'un défaut de qualité. On se dit c'est lié à cette gamme de produits, donc peut-être que peut-être qu'il y a eu à un moment une contamination, peut-être qu'il y a eu justement une substitution des plantes utilisées. Enfin, on se dit que ça peut être lié au produit. Et donc là, on fait une enquête au sein de l'entreprise pour déterminer son procédé de fabrication. Et là, dans le cas d'espèce, on n'a pas forcément mis en évidence de défauts de qualité. C'est pour ça que la suspicion, entre guillemets, s'est portée sur la plante dont on a parlé tout à l'heure, l'igname. Et parce qu'on se posait des questions sur la capacité de l'entreprise à bien identifier l'espèce qui était utilisée. Mais là aussi, je voulais réagir à ce qui a été dit. Il ne faut pas pour autant paniquer si on consomme un complément alimentaire à base d'igname. Ça ne veut pas dire que toutes les ignames sont dangereuses. Mm-hmm. Ce qui était dit, c'est que si on veut être sûr de la qualité du produit, et c'est évident, il faut être sûr d'être capable de bien identifier la plante que l'on utilise. Mm-hmm. Et en l'occurrence, il faut savoir que en Belgique et en Italie, il y a 5 espèces d'ignames qui sont autorisées, 5 sur les donc 600 qui ont été répertoriées. Et que si l'opérateur travaille bien, c'est-à-dire s'il est capable d'identifier la plante qu'il utilise, s'il n'y a pas d'adultération, si au cours de sa fabrication, il n'y a pas de contamination, a priori, il n'y a pas de risque. Mm-hmm. Donc là, la question, et l'enquête par rapport à ces cas n'est pas terminée, la question est de savoir où était le point faible dans le procédé de fabrication, si vraiment... on considère que le produit était responsable, parce qu'encore une fois, l'imputabilité n'est jamais sûre à 100%.
J'écoutais Madame Favreau à la radio, elle est beaucoup plus radicale que vous. Hein. Elle dit soit les industriels et les fabricants sont capables de prouver que ce n'est pas toxique, soit ça sort des rayons. Quoi. Elle n'est pas du même ministère.
C'est une évidence. C'est l'agence d'évaluation. Mais c'est une évidence. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Les opérateurs doivent être capables de prouver que ce qu'ils utilisent dans leurs produits, c'est bien la plante qu'ils affichent sur leur étiquetage. Donc toute la question, toute l'enquête doit montrer, doit voir s'il y a un défaut dans la fabrication du produit ou dans la procédure qualité de l'entreprise.
J'avais une petite question sur une enquête que vous avez réalisée et qui a été publiée l'an dernier et qui a fait pas mal de bruit dans les médias. C'était une enquête sur des contrôles que vous aviez faits dans des entreprises spécialisées dans les compléments alimentaires. Plus de 12% des produits comportaient des anomalies, soit en termes de publicité mensongère, soit en termes de substances qui n'étaient pas recommandables. Est-ce que 12% pour la DGCCRF, c'est un chiffre important ou est-ce que c'est assez banal ? Quand on fait des contrôles, on a 12% de produits qui ne sont pas conformes à l'information ou à la sécurité.
Non, moi je vous avouerai que ce qui m'a rassuré dans les résultats de cette enquête, c'est que c'était principalement des problèmes d'étiquetage. C'est-à-dire que l'étiquetage nutritionnel, par exemple, n'était pas tout à fait conforme, ou la liste des ingrédients, enfin les règles en matière d'étiquetage n'étaient pas tout à fait conformes, mais il n'y avait pas pour autant atteinte à la sécurité du consommateur. Donc, de ce point de vue-là... Désolé, je sais pas si
c'est... Non, ça, c'est pas vous.
D'accord, tout va bien. De ce point de vue-là, je trouve la situation assez rassurante.
Oui. Mm-hmm. Donc, c'était surtout des notices informatives qui n'étaient pas tout à fait conformes. Et quand vous dites, nous, donc au niveau des contrôles, ce qu'on fait, on va dans chez les distributeurs, on va chez les fabricants. J'imagine le boulot que c'est quand même. Vous avez les moyens vraiment de fonctionner pour faire un vrai boulot, sans oublier que le contrôle, c'est aussi, on l'a vu, les gens achètent sur Internet. Comment vous faites ? Vous avez des cybercontrôleurs ? Comment ça se passe ? Parce que évidemment, le marché, il est globalisé maintenant. Comment est-ce que vous faites pour...
Alors, est-ce qu'on a assez de moyens ? Moi, j'ai envie de vous dire non, parce que j'aimerais bien qu'on me donne plus de moyens encore. Mmh. Pour vous donner un exemple, je vous disais, depuis 2006, on a reçu un peu plus de 30 000 demandes de commercialisation de compléments alimentaires. Moi, quand j'ai monté le système, on m'a donné 3 personnes.
Oui.
En Belgique, par exemple, ils sont 12 pour faire ça. Mmh. Donc ça vous donne une idée des moyens qui ont été affectés et, à mon sens, de ce point de vue-là, ne sont pas suffisants. Mmh. Après, en termes de contrôle, bien évidemment, il n'y a pas un inspecteur derrière chaque produit. Il faut savoir que la DGCCRF, c'est 3500 agents, grosso merdo, et que les agences sont censées faire d'autres choses que le complément alimentaire. Hein.
Oui.
La DGCCRF contrôle les denrées alimentaires, elle contrôle également les produits industriels, les services, par exemple la banque, l'assurance, la téléphonie mobile, qui sont aussi des secteurs avec des enjeux très importants. Mais ça ne, j'irais d'un point de vue sanitaire, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que les premiers garants de la sécurité, ce sont quand même les professionnels qui sont responsables de leurs produits. Et que de ce point de vue-là, là, je parle vraiment de mon expérience propre, hein, enfin, je veux dire, des impressions que j'ai depuis que je travaille dans ce secteur, c'est-à-dire depuis 8 ans. Dans le domaine du complément alimentaire, ça s'est quand même beaucoup professionnalisé. Et on a quand même un niveau d'exigence qui augmente aussi bien en termes de sécurité. Hein, je vous dis, on est en train d'établir des listes d'ingrédients autorisés qu'en termes d'allégations, où on passe d'un système de contrôle a posteriori à un système d'autorisation préalable. Donc vous voyez que les exigences réglementaires sont de plus en plus importantes. Et moi, de ce point de vue-là, je suis assez, assez rassuré.
D'accord. Je voulais revenir une petite seconde sur le plan Nutri-Vigilance Audit. Bon, ça, c'est le dernier étage du contrôle. Hein, les médecins ou les pharmaciens vont communiquer à l'ANSES qu'il y a peut-être un problème. Mais il y a combien de consommateurs qui passent au travers des mailles du filet ? Je veux dire, moi, je vais dans mon magasin bio à côté, je prends quelque chose... Je ne vais pas retourner forcément voir le vendeur. Je suis là, j'ai des boutons. Ce n'est pas forcément une intoxication, je ne vais pas mourir, je n'ai pas une hépatite. Je peux avoir des allergies, par exemple, des boutons ou des choses comme ça. Donc tous ces gens-là, ils passent au travers des mailles du filet de la sécurité.
Ils passent, mais en même temps...
On ne peut pas sécuriser à tout craint chaque consommateur.
Non. Déjà, effectivement, le risque zéro n'existe pas, mais... on a déjà des outils quand même très très solides en termes de surveillance épidémiologique de la population. On est en train de mettre en place ce système de nutri-vigilance qui débute à peine. Donc je pense que entre tous ces étages qui existent en termes de sécurité, je pense qu'on arrivera quand même à... On est déjà à quelque chose de satisfaisant et on arrivera, à mon avis, à quelque chose de vraiment excellent dans les années à venir.
Vous êtes arrivé après la présentation des étudiants de l'ESC qui ont donné les synthèses de leur étude. Quelle est la place en fait du consommateur dans tout ça, dans cette chaîne d'information ? Est-ce que vous avez un point de vue sur comment informer sans le rendre complètement dépendants, peu autonomes. Enfin, elles ont dit que c'était pas si simple, quoi, la question de l'information du consommateur. Il faut l'éduquer, il faut l'informer. Je veux dire, il y a vraiment besoin d'une réflexion, et on sent depuis une dizaine d'années qu'on patine sur cette question-là. Est-ce que vous avez... parce qu'on le voit bien, l'étiquette. Évidemment, si on joue avec les étiquettes, bien sûr. Les gens sont noyés dans des masses d'infos. Il suffit de regarder les journaux, les compléments alimentaires. Ils n'ont pas bonne presse ou ils ont beaucoup de publicité. Comment est-ce qu'on se repère dans tout ça ? À votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour que le consommateur ait vraiment une information complète, sans que ce soit un chemin de croix, quoi.
Moi, je vous avouerai que j'ai pas forcément la réponse à votre question. Moi, la priorité, compte tenu de mes missions, c'est de m'assurer que les produits qui sont mis sur le marché soient sûrs.
Et après,
je peux pas maîtriser tout ce qui est dit et tous les messages.
Non, mais l'étiquetage fait partie de vos prérogatives.
Ouais.
Vous réfléchissez à la question de l'étiquetage.
Ah, mais bien sûr, mais justement, la question de l'étiquetage est éminemment sensible. Déjà, c'est un domaine qui est harmonisé, donc on ne décide pas en France d'ajouter comme ça des mentions d'étiquetage. Il faut en référer à Bruxelles, il faut l'accord de tous les États membres, ce qui n'est pas quelque chose de simple. Ensuite, on sait très bien que ajouter des mentions d'étiquetage sur des mentions d'étiquetage sur des mentions d'étiquetage, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, en termes de politique, la France n'a jamais été motrice dans l'idée de gérer le risque uniquement par l'étiquetage, mais aussi par le biais de teneur maximale, par exemple. Donc, c'est quelque chose que l'on gère de manière assez indirecte, je dirais. Par contre, excusez-moi, je me rends compte que je n'ai pas répondu à une de vos questions.
Ah bon ?
C'est qu'on dispose à la DGCRF d'une cellule de surveillance du commerce électronique.
Ah oui.
Donc qui permet effectivement de repérer des produits qui seraient éventuellement frauduleux sur Internet. Maintenant, avec toute la difficulté que cela peut susciter si l'entreprise n'est pas en France. Parce que oui. Si l'entreprise n'est pas en France, on ne peut pas la contrôler. Donc, à part faire des communiqués de presse en disant « attention, n'achetez pas ce produit », nos moyens s'avèrent plus limités.
Enfin, c'est pas parce qu'il est pas en France qu'il n'est pas bon. Il y a des choses qui sont vendues, par exemple aux États-Unis, qui sont bonnes. Enfin, je vois. On va peut-être terminer cette table ronde avec Madame Florence Taboulet.
Alors, moi, il y a une question. Je ne sais pas si vous êtes capable d'y répondre. On a parlé des trois allégations, hein, nutritionnelles, santé. Moi, j'ai pas compris ce que c'est que le profil nutritionnel. Est-ce que vous avez c'est l'une des nouveautés de la réglementation. Un produit ayant un profil nutritionnel favorable pourra bénéficier d'une allégation santé ou nutritionnelle. Alors, ça me paraît un peu flou.
Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu hors sujet.
Ah,
puisque
d'accord.
La soirée est complément alimentaire.
Et alors ?
Et les profils nutritionnels, c'est précisément sur les aliments,
hein,
globalement, qu'on va vérifier qu'un nutriment, ce qui est l'allégation santé qui a été mise en avant pour... On parlait tout à l'heure du bêta-carotène. Hein. Il ne faut pas faire une obsession sur le bêta-carotène, a-t-on dit. Bon, effectivement, il y a d'autres critères d'accord. qui doivent être pris en compte. Donc, il faudra effectivement avoir une vision globale. Et on est en train de travailler, et il y a en fait beaucoup de systèmes concurrents qui sont à l'étude, pour voir quel est l'algorithme ou l'organisation qui va permettre d'avoir une vision globale de l'aliment, hein, avec tous ces critères qui doivent être pris en compte pour que le consommateur ne soit pas dupé, hein, trompé, obnubilé par le critère qui aurait été mis en avant au détriment de l'ensemble précisément de ce profil, hein, des autres composants de l'aliment.
Alors ensuite, on a parlé d'harmonisation ou plutôt de non-harmonisation. Alors, on a vu qu'il nous a fallu 4 ans pour appliquer la directive, pour transposer en droit national la directive européenne. On a vu qu'on n'avait pas forcément les mêmes niveaux d'exigence d'un pays à l'autre en Europe. Donc comment ça va se passer? Effectivement, il y a une libre circulation des marchandises. On va se prendre des pénalités régulièrement si on refuse les produits de Belgique ou d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce qui va se passer là?
Alors, il faut effectivement bien comprendre la pertinence et la survenue de ce règlement communautaire. Hein. Quel était l'objectif quand on lit le texte initial? Il s'agit fondamentalement d'un objectif économique. Hein. Essayer de limiter les entraves à la libre circulation. Il faut un bon fonctionnement du marché intérieur. Or, la diversité des législations nationales, ça a été dit tout à l'heure, ça a démarré en Autriche, qui a été condamné parce que l'Autriche avait été trop protectionniste et était trop exigeante vis-à-vis de ses compléments alimentaires.
Donc nous, il y a une diversité. Si on est trop strict, nous, on peut être condamné.
Voilà, mais attention, l'objectif, c'est d'harmoniser les législations sur les allégations, c'est pas d'harmoniser le marché.
Oui.
Donc, on a dit tout à l'heure qu'un même produit pouvait être un médicament dans un pays, un complément alimentaire dans un autre et un dispositif médical dans un troisième. Là, effectivement, il y aura, me semble-t-il, un champ de marge de manœuvre laissé aux industriels et finalement qui répondent aussi à des critères divers et variés de socio-économiques et traditionnels en fonction de l'alimentation de chaque terroir. Donc effectivement, l'objectif, c'est pas de tout harmoniser, de faire en sorte que tout le monde mange exactement les mêmes barres de céréales partout. Hein. L'objectif, c'est tout simplement d'assainir en quelque sorte les messages promotionnels pour tout simplement protéger le consommateur.
Et par rapport, parce que là on voit l'Europe, par rapport aux États-Unis, c'est pas du tout la même réglementation. Alors je ne parle même pas d'Internet. Ou par rapport au Japon, on a vu que c'était un des gros producteurs de compléments alimentaires. Là, les barrières, c'est carrément au niveau
alors,
de l'OMC.
Alors on ne s'est pas proposé. Hein. Il faut se le proposer d'abord pour effectivement. Harmoniser. C'est intéressant de revenir sur l'histoire du médicament. Hein. Le marché unique du médicament, ça date de 1965. Hein, et il a fallu, maintenant, on peut estimer qu'effectivement le marché économique pharmaceutique fonctionne. Donc ça fait beaucoup de décennies. Hein. Donc c'est un long processus qui demande effectivement énormément de concertation,
On peut espérer que les allégations un jour soient les mêmes partout dans le monde.
À mon avis, pas du tout, puisqu'on ne se le propose pas.
D'accord. Hein.
Et attendez, une petite précision, c'est que justement aux États-Unis et au Japon, il y a des listes négatives. La liste négative, c'est-à-dire on va préciser les seuls ingrédients qui ne peuvent pas rentrer dans des compléments alimentaires, alors que nous, on a une démarche positive, liste positive, c'est évidemment beaucoup plus exigeant pour les industriels.
Une autre question, est-ce que vous pensez que, parce qu'on a parlé de la responsabilité du fabricant, on pourrait parler aussi de la responsabilité du médecin, du nutritionniste, de la diététicienne, il y a un problème, je prends un complément alimentaire, j'ai un problème grave, je peux me retourner contre le fabricant, le médecin, enfin, on voit qu'il y a un phénomène de judiciarisation de la société, qu'on a tendance quand même de plus en plus à porter plainte. Est-ce que vous avez en tête ce genre de problème possible ?
Alors, effectivement, s'il y a des stratégies thérapeutiques qui existent et que le consommateur berné et mal conseillé va se précipiter vers les compléments alimentaires et supprimer des chances de guérison avec des produits qui ont fait leur preuve, là, effectivement, il y aura éventuellement poursuite en responsabilité pour perte de chance. Le patient n'a pas eu la possibilité d'avoir la bonne consultation.
Enfin, là, c'est un usage frauduleux. Là, ça veut dire qu'il y a eu fraude du fabricant. Admettons qu'il n'y ait pas eu fraude.
Non, sans fraude. Non, il a tout simplement perdu la chance d'aller voir le bon médecin qui lui donnait le bon traitement.
D'accord.
Donc, effectivement, juridiquement, me semble-t-il, ce serait cette notion de perte de chance. Il a perdu du temps et sa guérison a été retardée ou carrément...
Mais les cas d'hépatite qu'on a vus tout à l'heure avec l'INIAM... Admettons que je ne sais plus combien il y avait de cas d'hépatite, mais ces patients-là...
Alors là, il y a un problème de droit de la consommation tout à fait ordinaire. Hein, il y a un problème de sécurité, donc responsabilité, produit défectueux ou manque d'information.
Ouais.
Hein, c'est différent par rapport au patient qui éventuellement aura, pour des infections urinaires, il aura perdu du temps pour utiliser un bon antibiotique... là, effectivement, il y aura procès en responsabilité.
Donc ça veut dire en tout cas que la responsabilité du fabricant est engagée, donc a priori, on peut penser que ça contribue à assainir le marché également. Je ne vous demande pas de réponse. Sinon, je sais que j'en ai pour 10 minutes.
Moi, j'avais une question sur un sujet qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, notamment avec le monsieur qui parlait des plantes, là, petit fabricant de plantes. Et je ne sais plus qui lui répondait, mais de toute façon, les big pharma, elles vont faire les tests, etc. Elles vont donc prouver que scientifiquement ça fonctionne, etc. Mais est-ce que là, on ne va pas rentrer dans des cycles de dépôt de brevets qui vont confisquer un certain temps ou sur redevance peut-être l'autorisation de vendre et d'utiliser certains ingrédients, certaines plantes, aux plus petits fabricants. Est-ce que vous avez l'impression que ce système, on continue la discussion, va favoriser les plus gros?
C'est ce qu'on a vu avec les OGM. Hein.
C'est ce qu'on a vu avec les OGM.
Une appropriation du vivant via des brevets sur une partie de la plante ou une plante entière, par exemple.
Mm-hmm. Oui. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure est intéressant. Hein. Il me semble que justement, les petits pourront bénéficier des allégations génériques qui ont été admises. Hein. C'est les données acquises de la science qui appartiennent à tout le monde, et le petit industriel pourra précisément mettre sur le marché son produit. Hein. Alors après, il y a effectivement un autre dispositif qui est mis en place, qui est la protection des données pour 5 ans. Hein. Protection.
Le brevet est déposable pour 5 ans.
Qu'est-ce qu'on protège là ? Qu'est-ce qui est protégé ?
La preuve scientifique qui a été mise en avant et qui a permis l'obtention de l'allégation santé est protégée pour celui qui l'a déposé pendant 5 ans.
D'accord.
Moins si... la Commission européenne.
Donc si on veut utiliser cette allégation, il faudra payer des redevances, des royalties à celui qui possède l'allégation.
Enfin, voilà,
le droit.
S'il y consent. Hein, il peut y avoir effectivement des accords. Mais ce dispositif de protection est évidemment, comme d'habitude, comme pour la protection des données d'un médicament ou comme le système des brevets, une incitation à la recherche. Hein. C'est le dispositif qui a fait ses preuves depuis des décennies, hein, qui permet d'encourager la recherche et l'innovation, et qui protège pendant 5 ans celui qui a investi pour essayer de garantir son retour sur l'investissement. Hein, donc il aura une protection, un monopole de clientèle pendant ces 5 ans.
Je crois que M. Cousin voulait préciser quelque chose. Il ne veut plus que l'on dise les hépatites dues à l'INIAM. Ce n'est pas encore prouvé. Voilà. Il y avait autre
chose ? On ne le dit plus.
Il y avait autre chose que... Non, c'est...
Non, juste dire sur la protection des données, oui. Ce qui est protégé, ce sont les études hein, qui sont à l'appui de l'allégation, ce qui veut dire qu'un opérateur qui voudrait faire la même allégation, il pourrait, mais il devrait faire ses propres études, à moins de payer pour utiliser les études.
Oui, c'est ça. D'accord.
Il n'y a pas de propriété de l'allégation. C'est ça okay. C'est très difficile à comprendre et à mettre en œuvre.
Non, pas de réaction. On se demandait, est-ce que ces allégations vont être étendues à d'autres catégories d'aliments ? Est-ce que c'est pas que sur les compléments alimentaires, les allégations ?
Ah, le règlement...
Parce qu'on parle de nouveaux aliments, c'est quoi ? Ce sont les aliments...
Oh, attendez, ça fuse là, dans tous les sens.
J'ai faim.
Le règlement allégation s'applique à toutes les denrées alimentaires.
Hein ? Toutes les denrées voilà. alimentaires, oui.
Et en l'occurrence, à toutes communication commerciale touchant des denrées alimentaires, ça veut dire l'étiquette du produit, le site internet, la publicité, donc c'est relativement large. Mmh. Donc effectivement, tout aliment peut communiquer sur la nutrition ou la santé, et ce règlement s'applique à l'ensemble de ces denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires. Ce qu'on appelle nouveaux aliments, en fait, c'est plus un lien, un règlement communautaire qui gère l'innovation. C'est-à-dire que c'est un règlement communautaire qui date de 1997 et qui dit finalement tout ce qui était consommé de manière significative avant 1997, on considère que empiriquement c'est sûr pour le consommateur. Maintenant, si vous fabriquez quelque chose d'un peu nouveau, ou si vous amenez quelque chose de nouveau en Europe, alors que c'est un historique de consommation sur d'autres continents mais pas en Europe, à ce moment-là, il faut passer par une procédure d'autorisation préalable qui est harmonisée, qui est centralisée à Bruxelles. Et ensuite, ça donnera lieu à une décision d'autorisation ou de refus. Et si jamais l'aliment est autorisé, il pourrait être commercialisé et utilisé dans des denrées alimentaires, hein, y compris des compléments alimentaires. C'est par exemple la voie qu'ont suivi les stérols.
Mmh. D'accord. Les phytostérols. D'accord. On va peut-être prendre quelques questions avant la conclusion de notre grand témoin attentif. Madame Blatt, Nadine.
Oui, je m'interroge avec effectivement ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'ère de l'éducation thérapeutique, puissance 15, on va dire. Est-ce que le complément alimentaire y trouvera une place ?
L'éducation thérapeutique, what is it ?
Oui, moi, j'ai pas très bien compris ce que c'est. Parce que déjà qu'on a du mal à faire de l'éducation alimentaire, alors s'il faut faire de l'éducation thérapeutique.
Et oui, mais pourtant, effectivement, je pense pas que. Voilà, peut-être que le professeur peut prendre.
Oui, oui. Et le pharmacien est effectivement en première ligne, hein, l'éducation.
Ben, justement, c'est pour ça aujourd'hui on confie un nouveau rôle au pharmacien de cet ordre-là. Donc,
Oui, moi, il me semble que le pharmacien est en. Le plus compétent, hein, précisément.
Voilà, précisément. C'était...
Donner, enfin, maladie par maladie, pour faire de l'éducation thérapeutique avec une vision globale, hein, et conseiller effectivement les produits les plus adaptés en termes de compléments alimentaires.
Tout à fait. Et est-ce qu'il est formé pour ça ?
Il est formé pour ça, tout à fait. Il est formé à l'éducation thérapeutique depuis quelques années, en tout cas dans nos facultés. Je ne sais pas si à Nantes aussi. Je pense qu'effectivement partout. Et puis il est formé effectivement à la nutrition et aux compléments alimentaires.
Monsieur Barre,
le point quand même me paraît important de bien distinguer l'éducation thérapeutique et l'éducation alimentaire ou nutritionnelle, puisque là, si vous dites thérapeutique, on est dans le traitement de la pathologie.
La prise de médicaments.
Or là, quand on parle de médicaments ou d'aliments, on n'est pas dans le traitement. C'est interdit, justement, de parler de traitement.
Donc, c'était bien faire la différence. C'était bien la frontière et dans le rôle du pharmacien, justement.
Et oui.
On retrouve bien quand même dans l'officine l'ensemble des...
Oui, dans l'officine, on trouve les deux catégories de produits, mais pour les industriels en particulier, c'est très important qu'ils ne donnent pas un message prétendant qu'ils vont traiter une maladie.
Tout à fait, tout à
parce
fait.
Que là, ils seraient dans le cadre du domaine du médicament par présentation, ils sortiraient du contexte du complément alimentaire.
Mm-hmm. Alors, enfin, ceci dit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de labos qui font effectivement des compléments alimentaires, hein, et qui jouent avec les mêmes marques, et notamment des marques ombrelles, hein, en ayant d'une part un médicament et d'autre part les compléments alimentaires adaptés. Donc effectivement, en termes de communication, c'est facile. Hein, mais effectivement, on parle de maladies particulières qui seraient bien ciblées.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose. De manière générale, vous avez peut-être l'impression que c'est en ce moment un gros foutoir, que ça ressemble un peu à l'aéroport d'Orly comme cet après-midi. Je peux vous dire que c'était très, très impressionnant. Ça partait dans tous les sens. Mais moi, je vous donne rendez-vous dans 3 ans. Dans 3 ans, vous aurez une liste des ingrédients autorisés dans les compléments alimentaires, une liste d'allégations autorisées, c'est-à-dire qu'en dehors de ces allégations, on ne pourra rien dire d'autre, et des listes qui seront entièrement publiques, c'est-à-dire que demain, tout le monde saura à un moment donné ce qui est autorisé. Et forcément, le consommateur qui sera averti et qui sera conscient de tous ces aspects-là, il sera de fait informé, donc formé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça sera beaucoup plus, il y aura beaucoup moins de questions sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça sera plus évident et donc forcément la frontière se fera.
Denis Corpé veut absolument.
Et après le monsieur à côté. Rapidement, monsieur... Denis, parce que monsieur Buga va faire sa synthèse.
Là, on cause des allégations qui seront autorisées sur des listes positives. Mais j'ai entendu que les produits pouvaient être vendus sans allégation.
Oui.
Je ne suis pas du tout persuadé qu'ils vont disparaître, ces produits-là. J'en veux pour preuve qu'actuellement, il n'y a pas d'allégation et que les gens achètent des compléments. Ils les achètent pourquoi ? C'est parce qu'ils voient dans des journaux des articles de journalistes qui ne sont pas des publicités des industriels, même si quelquefois il y a peut-être un peu collusion. Mais ils lisent dans un journal que je ne sais pas quoi, le sélénium, ça empêche le cancer de la prostate. Il n'y a pas besoin de faire une allégation. Ils l'ont lu 3 fois, ils vont acheter du sélénium. Donc, est-ce que ça, j'ai bien compris, qu'il n'y aura pas interdiction des compléments ? Ou j'ai pas bien compris.
Ah non, mais effectivement, il n'y aura pas d'interdiction des produits. Et de toute façon, à l'heure actuelle, il y a des allégations. Le marché existe et la réglementation vise à clarifier le marché. Mais la différence, c'est que peut-être que des produits voudront jouer sur l'image. Par exemple, les oméga-3 qui ont effectivement à l'heure actuelle une très très bonne presse. Et peut-être que certains vont très très loin dans les allégations. Mais l'avantage, c'est que demain, on aura une liste des allégations autorisées, on aura aussi la liste des allégations rejetées. Et je pense que tout
ça sera
transparent.
Mais croyez que le consommateur va aller voir ça ? C'est la question que je vous posais
tout à l'heure. Le journaliste, s'il fait bien son travail, il va être capable de faire le tri aussi.
Les journalistes qui font bien leur travail...
Arrête.
On peut douter, enfin, je veux dire, c'est permis.
On va laisser parler le monsieur parce qu'il y a un moment qui...
Henri Feit, je suis également ingénieur agronome. Ça fait 2 heures qu'on parle de compléments alimentaires ou de médicaments. Il y a une quinzaine d'années, j'avais entendu parler du terme alicament. Et en 2 heures, personne ne l'a prononcé. Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est un concept parce que, qui pourrait définir la voie étroite qu'il y a justement entre aliments et médicaments ? Ou est-ce que vous l'avez rejeté pour différentes raisons ?
On l'a rejeté, oui, pour différentes raisons. Ça nous plaisait, déjà, personnellement, ça ne nous plaisait pas du tout.
Mais c'est pas
non,
ça.
Non, mais c'est pas ça. C'est que Geneviève Casvalette l'a très bien dit au début. La médicalisation de l'alimentation. C'est pas forcément une bonne chose. On s'en rend compte à travers ce qu'on a nommé tout à l'heure sur l'orthorexie, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et d'ailleurs, si l'alicament a quand même globalement perdu de son aura, c'est parce qu'il y a eu un virage qui a été effectué, y compris par les pouvoirs publics, sur la notion de bien-être, de plaisir, d'équilibre, de lien social, etc. Donc oui, c'est tout à fait sciemment qu'on a... Et on n'y a même pas pensé, d'ailleurs. Je crois.
Donc, c'est un terme à proscrire. Il faut en parler.
Oui. Et puis, il y a une définition du complément qui s'appelle complément alimentaire sous forme de gélules, de pilules, etc. Donc, on a voulu vraiment rester dans le cadre de, dans ce cadre-là. Alicament, on ne sait pas si c'est pas des yaourts enrichis en bifidus ou si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, on ne parlait pas des aliments enrichis. On parlait des compléments alimentaires.
Excusez-moi. Effectivement, il y a des catégories juridiques. À chaque catégorie correspond des règles. Et alicament n'existe pas.
Voilà.
Donc, à bannir définitivement.
Vous aurez appris ça ce soir après, très je ne sais bien. Pas quoi, mais...
On va peut-être passer...
Monsieur Barre, oui.
Je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, alicament, c'est l'agrégation d'aliments et de médicaments, et réglementairement, ce n'est pas possible d'être à la fois aliment et médicament. Ouais. Mais j'avais une question pour notre collègue qui représente Synadiet, justement pour rebondir sur la question de monsieur Corpé. Est-ce que vous pensez qu'à terme, une fois que les allégations seront autorisées, enfin, on aura la liste positive des allégations. Est-ce que vous pensez que chez vos collègues, il y aura encore une place pour les compléments alimentaires qui ne seront pas porteurs d'allégations ? Voilà. Comment vous voyez-vous, en tant que fabricant, les choses ?
Je pense qu'il y aura une place. Il y a une place, en fait, pour une demande raisonnable du consommateur. Je crois que peut-être qu'on n'a pas employé le mot alicama, mais on n'a pas beaucoup employé le mot consommateur. Enfin, on l'a employé, mais je crois qu'il faut aussi faire confiance un petit peu au consommateur et qu'il, dans une certaine mesure, qu'il est raisonnable. Il faut un encadrement réglementaire, je crois qu'on l'a bien expliqué longuement. Mais dans le cadre de cet encadrement réglementaire, faire confiance aux consommateurs d'une part et d'autre part aux prescripteurs, parce qu'on n'a pas parlé de prescription des compléments alimentaires, mais un complément alimentaire, tous les médecins et tous les pharmaciens ne trouvent pas que ce sont des produits dangereux. Et beaucoup sont convaincus et recommandent à leurs patients ou à leurs clients d'utiliser des compléments alimentaires. Donc pour répondre à votre question, un complément alimentaire qui aujourd'hui a fait ses preuves d'efficacité dans un domaine, en tout cas qui a fait ses preuves, peut-être pas selon les critères de l'EFSA, mais qui a fait ses preuves concrètement au quotidien, moi, personnellement, je trouve tout à fait raisonnable qu'il reste sur le marché. Il n'aura pas d'allégation si la réglementation reste exactement sous cette forme. Peut-être qu'il aura une forme d'allégation, parce que la messe n'est quand même pas tout à fait dite aujourd'hui pour ces allégations. Il y a encore beaucoup de choses en suspens. Mais, en tout cas, moi, je trouve tout à fait raisonnable qu'il soit sur le marché. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas sur le marché. Dans beaucoup de domaines industriels ou autres, il y a des produits qui sont des produits génériques sans étiquette. Ils ont leur place. Il n'y a pas que Danone dans la vie. Il y a des produits à marque dans les grandes surfaces qui ont du succès, qui ont leur place. Donc, de la même façon, il n'y a pas que les industriels qui auront obtenu une allégation. Et pour l'instant, il y en a très très peu, y compris les grands. Même les grands ne les ont pas obtenus. Mais il n'y aura pas que les industriels ayant les moyens d'obtenir des allégations qui auront des produits. Et moi, je reste persuadé que les industriels sérieux, respectant toutes les règles qu'on vient d'évoquer, peuvent faire des produits qui sont sérieux et qui auront une utilisation, même si la réglementation fait qu'il n'y a pas d'allégation précise dessus. Parce que l'usage montrera que... il faut aussi que le consommateur et le prescripteur aient une liberté. S'il est convaincu que le thé vert fait du bien comme antioxydant, et même si beaucoup de scientifiques aujourd'hui contestent le rôle global des antioxydants, ce qui est un peu excessif à mon avis, mais ça c'est notre débat, mais si on estime que le thé vert contient des polyphénols biodisponibles qui ont un effet antioxydant, je vois vraiment pas pourquoi un médecin, un pharmacien ou un consommateur pourrait pas acheter du thé vert pour l'utiliser dans le sens où il le pense utile.
Donc cette rigueur, entre guillemets, ne risque pas de tuer le marché, finalement?
Pas du tout. Comme toute mutation, comme dans les espèces animales, comme toute mutation, certains dinosaures qui vont disparaître, et il y a d'autres espèces qui vont prendre le pas.
Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ?
Ça veut dire que j'aurai encore du travail, c'est bien.
C'est bien, s'il me semble, il va falloir embaucher. Hein.
Non, ça me fait penser, on parle de prescripteurs, ça me fait penser, en parlant de vigilance aussi, qu'un des cas qui avait été rencontré, même si ça déborde un peu directement de la nutri-vigilance, c'est la confusion qu'il y a eu entre un complément alimentaire et un médicament. C'est un complément alimentaire qui s'appelle le Préservision, qui est destiné, qui contient de la lutéine, et donc qui a eu une allégation, d'ailleurs validée par l'AFSA, sur... la rétine, il me semble, et donc c'était prescrit par des ophtalmos, et les patients qui allaient en officine demander du Préservision, les pharmaciens leur donnaient du Préviscan, qui est un anticoagulant, donc ça a fait des hémorragies, ce qui soulève beaucoup de questions, bien entendu, sur la nécessité de bien distinguer les produits, oui, effectivement, et puis sur l'importance aussi d'être vigilant, aussi bien pour le consommateur que pour le pharmacien dans son activité.
On va passer peut-être... Monsieur Buga, est-ce qu'il y avait juste une dernière question ?